Soyez les bienvenus. Vous voyez, l'habitude, la force de l'habitude. J'ai l'impression d'être à Albi. On est un peu plus nombreux qu'à Albi, mais en tout cas, c'est une joie d'être avec vous ce matin, avec un échantillon de la famille. On est vraiment, vraiment content d'être là et puis d'envisager cette collaboration, Dieu voulant, dont a parlé Vincent. Une collaboration qui commencerait, là encore Dieu voulant, à l'été 2026. Et d'ores et déjà, on vous encourage, comme ça a déjà été fait dans l'Église, à prier pour ça, à prier pour ce projet. On va en parler tout à l'heure. Les besoins sont énormes à Toulouse. En faisant réviser ma fille, qui est en troisième, j'ai appris ou réappris qu'il y a plus de 20 000 habitants à Toulouse chaque année. Et je ne crois pas qu'il y a deux églises implantées chaque année. Et donc il y a beaucoup à faire et c'est une joie d'envisager de travailler ensemble dans quelques temps pour l'Évangile, une vraie motivation pour ça, puis en même temps un peu de tremblement, un peu de peur, et puis un changement important par rapport à nos enfants qui sont très attachés à Albi, bien qu'il y ait trois Toulousains et une seule Albigeoise. Ils sont quand même, ils ont fait leur vie à Albi, et donc c'est aussi un sujet de prière qu'on puisse vivre ce basculement pour venir travailler avec vous pour l'Évangile ici à Toulouse. Je vous invite à ouvrir la parole pour continuer au psaume 2. Alors le psaume c'est facile à trouver, hein, vous prenez la Bible, vous ouvrez au milieu. En général, vous arrivez dans les psaumes, c'est le psaume 2 que nous allons prendre ensemble maintenant. Le bonheur, c'est sans Dieu. Voilà ce qu'on peut entendre, alors formuler comme ça ou formuler différemment dans notre contexte. Pour l'homme d'aujourd'hui, c'est sûr, le bonheur ne passe pas par Dieu, par une relation personnelle avec lui. Alors j'entends déjà quelqu'un qui dit c'est faux. Effectivement, alors un peu de patience, on va voir que c'est faux. Mais pour les gens qui nous entourent, souvent religion, ça rime avec prison. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est perçu comme un Dieu castrateur. C'est-à-dire un Dieu dont le métier à plein temps, H24, c'est de limiter nos libertés, de nous empêcher d'accomplir nos rêves, de brimer notre bonheur. Et à l'inverse, on oppose à ça le slogan « Je fais ce que je veux », en insistant sur le « je ». Je fais ce que je veux. Notre psaume ce matin, et c'est là où mon frère va m'approuver, nous dit exactement le contraire. Heureux ceux qui se réfugient en lui. Heureux ceux qui se réfugie en lui. On va voir ce matin que être heureux, ce n'est pas se rebeller contre Dieu, mais se soumettre avec confiance à son Fils. Être heureux, ce n'est pas se rebeller contre Dieu, mais se soumettre avec confiance à son Fils. Alors, les psaumes 1 et 2, c'est la porte d'entrée dans le psautier. Un peu l'introduction au psautier. Vous le voyez bien parce que les deux psaumes commencent et terminent de la même manière. Regardez le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme. Et le dernier verset du psaume 2, « Heureux tous ceux qui ». La porte d'entrée dans le psautier avec ce mot « heureux ». Le psaume 1 nous dit « Heureux celui qui obéit ». Pour être heureux, ne t'attache qu'à Dieu et qu'à sa parole. Ça, c'est le psaume 1. L'obéissance est bénie par Dieu. Et puis le psaume 2, qui est son pendant, nous dit « Heureux tous ceux qui se réfugient en lui ». La confiance en Dieu est bénie par Dieu. Alors on va lire ensemble le psaume de Dieu, je lirai dans la version à la colombe. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel, contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Je vous invite à prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes conscients de vivre dans un bain où ta présence, ta parole, sont perçues comme brimant notre liberté. Nous voulons prendre le temps ce matin de voir les choses avec tes yeux, d'écouter ta voix et de comprendre qui tu es, quel est ton projet et combien c'est le bonheur de vivre avec toi pour roi. Nous te prions de nous rendre attentifs, nos oreilles et nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le psaume commence, le psaume s'ouvre avec la rébellion des hommes. La rébellion des hommes, versets 1 et 2. C'est une ligue qui a un projet bien particulier. Vous voyez le terme verset 2, les rois, les princes se liguent ensemble. Alors, ce n'est pas la ligue de protection des oiseaux, ce n'est pas la ligue pour la lecture de la Bible, la ligue de lutte contre le cancer, c'est la ligue contre Dieu. Voilà le projet de ce rassemblement. Non seulement contre Dieu, nous dit le texte, mais aussi contre son Messie, verset 2. Quel est l'état d'esprit ? Quelle est la charte ? Quels sont les statuts de cette ligue contre Dieu, LCD. Elle est mentionnée verset 3. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. En gros, on veut que personne règne sur nous, ni toi, ni ton Messie, Dieu, ni Dieu, ni Maître. Et on ne veut pas de tes lois, de ce que tu nous dis qui sont des liens, des chaînes qui briment notre liberté. Et notez, dans ce projet, dans cette ligue, le rôle des élites, verset 2. C'est ceux qui dirigent, qui donnent le tempo, les rois, les princes, les grands. Alors le contexte de ce psaume n'est pas précisé. Certains psaumes ont quelques mots du contexte dans lequel il a été écrit, d'autres pas. Mais on sait que dans l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël, il y a plusieurs fois des peuples qui se sont ligués contre Dieu et contre son roi. De nombreux cas dans l'histoire de David et de ses successeurs. Mais à la lumière de la parole, on sait aussi que c'est un constat universel qui est vécu à bien des époques. La nature profonde de l'homme, depuis toujours et pour toujours, c'est de rejeter Dieu de sa vie, de n'en faire aucun cas, d'être profondément rebelle. C'est donc une situation typique qui est décrite ici. On peut parler de psaume typologique, ça nous décrit une situation qu'on retrouvera et qu'on retrouve sans cesse dans l'histoire du monde et de l'Église. À ce stade de notre texte, ne soyons pas surpris de l'opposition. Ne soyons pas surpris par la rébellion des hommes contre Dieu. Les temps n'ont pas changé. Cette rébellion est partout et prend diverses formes. Ça peut prendre des formes frontales. Dans notre famille, nos amis, parmi nos amis, nos connaissances, quand on s'oppose directement à la foi, et plusieurs vivent par exemple les fêtes de fin d'année comme des moments difficiles, où ils vont être confrontés à cette opposition frontale contre Christ, contre l'Évangile, dans leur famille, de leurs parents, de leurs frères et sœurs. Ça peut prendre la forme d'opposition frontale quand nos élites s'opposent à la foi, quand on veut empêcher l'expression publique de la foi chrétienne, quand on veut éjecter la foi de l'espace public, quel qu'il soit, quand on voit nos intellectuels les plus brillants s'ingénier à mépriser Dieu, mépriser la foi, mépriser la Bible, mépriser ce qui fait le cœur de notre foi comme une fable pour enfants, finalement. Ça peut prendre aussi des formes plus subtiles. L'indifférence, c'est une rébellion. L'indifférence vis-à-vis du Dieu de l'univers, ne vivre comme s'il n'existait pas, C'est une rébellion soft, mais c'est une rébellion subtile. Rébellion plus subtile aussi quand on vit comme chrétien dans un contexte où nos collègues, nos amis, nos proches prennent des décisions sans cesse sans tenir compte de Dieu. C'est aussi une forme d'opposition. Et on sait que c'est l'état d'esprit dominant de notre pays, la France. Un pays où l'insoumission est vue comme une valeur, où il y a même un parti politique qui s'appelle les Insoumis. Toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit, et encore plus celle de Dieu, est rejetée. Mais ce n'est pas que la France, c'est l'état d'esprit de l'homme. C'est l'état d'esprit de l'homme depuis Genèse 3, depuis que Satan lui a dit, en fait, ton problème, c'est Dieu. Rejette-le. Désobéis-lui. Et tu seras comme qui ? Comme Dieu. Tu seras libre en éjectant Dieu de ta vie. La chanson Imagine de John Lennon est très aimée et chantée. John Lennon présenté comme un humaniste. Un extrait de ce chant. Imagine ce monde idéal où il n'y aurait pas de Dieu. Imagine ce monde idéal où il n'y aurait pas de Dieu. L'Occident est profondément marqué par ce rejet de Dieu, par cette création d'un homme avec un grand H qui veut tuer Dieu pour prendre sa place, pour être calife à la place du calife, roi à la place du roi. Rejeter Dieu et tout ira mieux. Les apôtres ont perçu que, de manière toute particulière, ce slogan de la LCD, la Ligue contre Dieu, s'appliquait à Jésus-Christ. Ils ont été arrêtés dans Acte 4 parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Ils ont été relâchés finalement et ils prient. Acte 4, verset 23. Je le lis. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, contre son Messie. » Ils citent le psaume 2 et ils continuent leur prière. « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Le moment où le projet diabolique de rejeter Dieu a trouvé son summum, c'est la croix. C'est à ce moment-là que le diable et ses alliés pensaient avoir gagné contre cet ennemi, Jésus-Christ. Mais le texte d'Actes lève le voile sur la suite de notre psaume, en fait, puisque les apôtres, en priant, disent « En fait, ils ont fait ça, ils se sont ligués contre toi pour faire tout ce que ta main, verset 28, et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Ne soyons pas surpris par la rébellion des hommes. Alors on n'est peut-être pas surpris, mais on peut être impressionné, voire même ébranlé par l'opposition à Dieu que l'on perçoit tous les jours, qui est parfois violente à notre égard. L'objectif, c'est de ne pas rester focalisé dessus. Je ne sais pas si vous faites du ski ou de la luge, mais parfois il y a un arbre au milieu de la piste, il y a plein de places à droite, il y a plein de places à gauche, mais on va... Il ne faut pas que je le prenne, on se le prend. Parce qu'on est focalisé dessus. Le psaume nous déplace de ce lieu de tumulte au palais de notre Dieu. On change de perspective. Question. Comment Dieu va-t-il réagir à l'opposition féroce ? Va-t-il négocier avec les rebelles ? Va-t-il composer avec leur rébellion, les faire entrer au gouvernement? Va-t-il renoncer à ses lois pour éviter de faire des vagues, de susciter l'opposition? Va-t-il faire des compromis de toutes sortes? Lisons verset 4. Il rit. Il rit. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Quel contraste extraordinaire entre ce tumulte, cette unanimité contre Dieu qui peut nous impressionner, qui peut nous ébranler parfois. Et notre Dieu, il rit et il reste assis. Il règne. La description qui nous en est faite ici nous parle de sa souveraineté. Il est dans les cieux. Il n'est pas atteint. Il n'est pas affecté. Il n'est pas remis en cause. L'image nous parle de son règne. Il est assis sur quoi? Sur son trône. Il reste aux commandes, malgré tout. Le texte nous parle de sa tranquille assurance. Il rit. Il se moque des moqueurs du psaume 1. En fait, comme toujours dans la Bible, comme au psaume 1, la clé, c'est de voir avec les yeux de Dieu. C'est pour ça que la parole nous est donnée. Que sans cesse, on cultive ce regard sur la réalité, non pas de ce qu'on veut nous imposer, mais de la manière dont Dieu voit les choses. Malgré les apparences du moment, malgré la réalité impressionnante, ce n'est pas l'opposition unanime des hommes contre Dieu qui prime, c'est le règne de Dieu. Et après la moquerie, la colère, regardez verset 5, il leur parle dans sa colère. Et vous savez comment il les impressionne, cette coalition impressionnante, juste en faisant quoi? En parlant. En parlant. Ça, c'est puissant. Quand vous calmez l'opposition d'un mot. C'est notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce contre quoi la Ligue se dresse a déjà été établi et que ça bougera pas. Il parle de son roi, de son Messie. C'est pas, malgré les apparences, Dieu qui a un coup de retard, c'est les adversaires. Parce que le Messie est établi, celui qui règne a été choisi. Il règne à Sion, qui est la montagne de Jérusalem. Et que derrière le Messie, il y a Dieu lui-même. Et on ne le voit pas forcément, mais au verset 6, c'est le mot « moi » qui revient en tête. « Moi, j'ai établi mon Messie. » Puis, après Dieu, c'est le Messie qui prend la parole et qui parle de son règne, le règne du Fils, verset 7. C'est le Messie qui parle. « Je publierai le décret de l'Éternel. » Il m'a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, pour possession, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » Le contexte de ce psaume, et c'est maintenant qu'il faut en parler un peu plus, c'est probablement un psaume de couronnement, un psaume qui était utilisé dans l'histoire d'Israël, au moment du couronnement du roi, pour rappeler que le roi était établi par Dieu lui-même. Et le fondement de cette promesse, c'était la promesse de Dieu à David dans 2 Samuel 7. Vous savez que David veut construire une maison pour le Seigneur, on l'a entendu dans la première partie de notre culte. Et Dieu lui dit, c'est ton fils qui le fera. Mais il lui fait une promesse, tu veux me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison. De Samuel 7, verset 16, et il lui dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Et donc au moment du couronnement, on se rappelait de cette promesse idéale. on se rappelait du règne idéal du Fils, même si dans l'histoire d'Israël, ce règne idéal était bien souvent pas atteint, parce qu'il portait, il annonçait quelque chose de plus grand. Quel est le contenu de ce règne? On a parlé des statuts de la Ligue contre Dieu, parlons des statuts ou du projet du règne du Fils. Regardez à partir du verset 7. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Lors du couronnement, dans l'Israël ancien, le roi était comme adopté par Dieu. Le peuple devait reconnaître que derrière le roi, c'était l'autorité de Dieu lui-même. Verset 8, les nations lui appartiennent, c'est pas simplement un règne limité, c'est un règne universel, on en a encore parlé tout à l'heure dans la première partie, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se rebellent ou pas, le Messie de Dieu est leur roi. Et puis verset 9, dernier ingrédient du règne, malgré l'énorme mobilisation des rebelles, ils seront brisés d'un coup, aussi facilement qu'on jette un vase par terre et qu'il se brise. Là encore, là surtout, cette description du règne du Messie va bien au-delà de ce que l'on sait de l'histoire d'Israël. Vous savez, c'est comme un grand costume, et puis on regarde si les rois d'Israël rentrent dans ce grand costume. Et en fait, il est trop grand pour tout le monde, jusqu'au moment où vient le Fils, avec un grand F, Jésus-Christ. Oui, les rois annonçaient imparfaitement le règne de Dieu, mais lorsque le Fils vient, il rentre dans le costume qui lui va parfaitement, parce que c'est un psaume qui l'annonce. Regardez dans l'Évangile combien ce psaume est appliqué à Jésus. Au moment de son baptême d'abord, Matthieu 3, versets 16 et 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Un mix entre le psaume 2 et Ésaïe 42. Et puis, les apôtres l'appliquent pour la résurrection de Jésus. Lorsqu'ils parlent de la résurrection de Jésus, ils appliquent le psaume 2. Acte 13, versets 32-33. « Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit où ?» Au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Il ne faut pas mal comprendre l'engendrement. Il ne s'agit pas de dire que Jésus est né à ce moment-là. Ce n'est pas un acte de naissance, c'est une manifestation publique. Là, il est évident, lors de la résurrection, que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'était déjà le cas. Mais là, c'est proclamé clairement, baptême, résurrection. Et puis, troisième élément, son règne qui avance. Au moment de parler de l'avance du règne de Dieu, le psaume 2 est en tête. Non seulement dans la mission des apôtres, mais aussi lorsqu'on parle de sa victoire finale. Ce règne de Jésus qui est en marche depuis sa victoire à la croix et la résurrection. Ce règne qui va trouver son apogée lorsque Jésus reviendra. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, cite le psaume 2 pour décrire ce règne de Jésus. Apocalypse 19, versets 15 et 16. De sa bouche, on parle de Jésus là, sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Citation de notre psaume. Il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau, sur sa cuisse, un nom écrit « Roi des rois ». Seigneur des seigneurs. Souvenons-nous du début du psaume, de cette ligue impressionnante. Vous savez, c'est comme dans les films, les péplums, où il y a une petite troupe qui voit venir les adversaires. Et la terre est en ronde, on les voit arriver, la poussière d'abord, et puis ils sont impressionnants. Et puis tout l'horizon, ils prennent tout l'horizon. Là, on est dans la réalité de leur défaite. Quel terrible destin pour des nations que l'on croyait fortes, indestructibles, pour des nations qui semblaient convaincues qu'ils allaient avoir la victoire sur Dieu et son Messie, brisées en un instant. Et c'est Spurgeon le prédicateur anglais qui disait à ce sujet, ceux qui ne se courberont pas devront casser. Alors, on connaît la suite, mais arrêtons-nous quelques instants pour nous souvenir que la situation aurait dû s'arrêter là. L'opposition déterminée contre Dieu, la réaction de Dieu par son Messie, sa colère et sa victoire, fin de l'histoire. La suite n'est due qu'à la grâce de Dieu. La suite n'est due qu'à la grâce de Dieu parce que Dieu va encore parler aux rebelles. Il a encore quelque chose à leur dire. Soumettez-vous au Fils. Verset 10. Et maintenant, royez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Voyez l'amour de Dieu, ses ennemis personnels, ceux qui respiraient la violence et le meurtre contre Dieu et son peuple, Dieu leur parle en leur disant « réfléchissez bien, ayez du discernement ». Et puis il les invite, verset 11, regardez la suite d'impératifs. « Servez l'Éternel avec crainte, soyez dans l'allégresse en tremblant ». Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Une invitation pressante à venir au Fils, à venir à lui pour trouver son Sauveur. Et dans l'Ancien Testament déjà, on trouve des païens qui ont pris ça au sérieux. Pensez à Rahab, par exemple. Elle a peu d'éléments sur Dieu, mais elle connaît sa réputation et elle se tourne vers lui parce qu'il nous est dit dans Josué 2 « Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut et sur la terre, ici-bas. » Elle prend conscience de qui est vraiment Dieu et elle préfère se jeter dans ses bras que faire partie de ses ennemis. Et elle sera sauvée et elle fera partie de la généalogie de Jésus. Alors, on a envie de dire, c'est un peu du chantage quand même. « Soumets-toi à moi !» Où tu vas voir. C'est un peu gênant, non? En fait, ce n'est pas du chantage. C'est une question de discernement de la réalité. Si Dieu est vraiment ce qu'il prétend être, mieux vaut être dans son camp que contre lui. C'est logique. C'est lié à la personne de Dieu. C'est juste avoir du discernement. Dieu règne, il est grand, il est impressionnant. Et vous voyez cette expression qui est utilisée, frappante. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Oui, il est impressionnant, notre Dieu. Mais il appelle ses ennemis personnels à se jeter dans ses bras au lieu de fuir et de se rebeller. Alors pour terminer ensemble, je me suis trompé d'ordre, le psaume 2, c'est déjà l'évangile. Si on réfléchit à ce psaume, en fait, il y a dans ce psaume les ingrédients de l'évangile. Dieu règne, il est notre créateur, c'est à lui que nous avons des comptes à rendre, que nous le voulions et non, en quelque sorte. Et puis l'attitude, deuxièmement, des hommes de base depuis la chute, c'est la rébellion, le rejet de Dieu sous des formes soft ou sous des formes violentes. La conséquence, c'est la colère de Dieu, la juste colère de Dieu. Et en même temps, il y a la grâce. Grâce de Dieu qui appelle à lui, embrassez le Fils, venez à lui. Il y a ce dernier ingrédient qui est un appel à répondre. Repentez-vous et croyez. C'est déjà l'évangile. Alors, il y a deux choses de l'évangile que je vous invite à retenir dans ce psaume. D'abord, l'assurance paisible de l'évangile. Quand nous sommes confrontés aux manifestations d'opposition, de rébellion contre Dieu, faisons comme notre Dieu, assignons-nous et réfléchissons. Pensons à toutes les tentatives de rébellion contre Dieu, contre Christ. Pensez maintenant aux moqueries que vous avez subies, à l'opposition, la calomnie que vous avez peut-être vécue la semaine écoulée. Pensons à tous ceux qui vivent comme si Dieu n'existait pas. quelqu'un qui a l'insulte permanente à la bouche, peut-être un collègue, peut-être quelqu'un qui fait des choix éthiques qui sont contre la parole de Dieu, peut-être quelqu'un qui manifestement livre sa vie à l'idolâtrie de l'argent. Faisons concrètement cette semaine cette liste mentale des membres de la Ligue contre Dieu que nous connaissons. Et face à cela, mettons le rire de notre Dieu souverain. Face à ça, mettons le règne de Jésus-Christ, son règne éternel. Face à cela, souvenons-nous de la description de son règne victorieux déjà en marche et qui sera pleinement manifesté quand Jésus reviendra. Apprenons à regarder la réalité avec les yeux de Dieu. Le résultat, c'est l'assurance paisible du croyant qui vit des épreuves, qui vit des difficultés, qui vit des combats, mais en sachant que rien ni personne ne pourra le séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième élément, c'est l'appel pressant de l'Évangile. Face à la rébellion de l'humanité, ne courons pas nous cacher au fond de nos églises. Il y a un combat à mener, c'est le combat de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'Évangile à proclamer le salut en Jésus, son Fils. La conquête du Fils a lieu aujourd'hui par grâce, par le moyen de la foi. C'est comme ça que Dieu gagne du territoire dans les cœurs. L'Évangile est annoncé, des hommes et des femmes se repentent et croient. Viendra un jour où ce sera le temps de la colère de Dieu, lors du jugement. Entre les deux, ce temps nous est donné, nous qui faisons déjà partie de son peuple. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. C'est notre responsabilité. Dieu veut nous utiliser pour annoncer l'évangile de la grâce, pour annoncer la patience de Dieu, pour dire à ceux qui nous entourent, aujourd'hui trouvez un sauveur pour ne pas trouver un juge quand Jésus reviendra. Embrassez le Fils aujourd'hui pour que vous ne soyez pas face au Fils en colère lorsqu'il reviendra. Alors peut-être que ce matin, même en venant pour la première fois ou en fréquentant l'Église, vous n'avez pas pris position clairement pour Jésus-Christ. Peut-être que c'est la foi de vos parents, peut-être que vous avez un certain intérêt pour la foi sans plus. Entendez l'appel de Jésus ce matin. Au travers de ce psaume, le Père nous dit, venez au Fils, confiez votre vie à Jésus. Renoncez à votre rébellion, repentez-vous et placez votre confiance dans le règne du Fils, parce que son règne est un règne de joie, un règne de paix, un règne de vie nouvelle. Et si nous sommes chrétiens, à la fois reposons-nous et ne nous reposons pas. Reposons-nous dans l'œuvre parfaite de Jésus. Nous sommes à lui. Il est mort et ressuscité pour nous. Mais nous ne voulons pas nous reposer parce que des foules autour de nous font partie de la ligue contre Dieu. Annonçons l'évangile avec courage, avec persévérance, avec clarté, avec amour, dans la prière persévérante. Pensons à nos amis, qu'ils soient des rebelles durs ou des rebelles soft, qui sont simplement dans l'indifférence. Pensons à eux en nous souvenant que soit ils viennent à Jésus aujourd'hui pour trouver leur sauveur, soit ils seront en face de leur juge lorsqu'il reviendra. Frères et sœurs, pensons aux Toulousains, pensons aux Albigeois que nous croisons dans le métro, dans le tram, dans la rue, au stade. Et souvenons-nous à chaque fois que nous en croisons, que soit ils viennent à Jésus pour trouver leur sauveur aujourd'hui, soit un jour il sera trop tard et ils rencontreront leur juge. Alors oui, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Proclamons, vivons joyeusement Le fait qu'être heureux, ce n'est pas se rebeller contre Dieu, mais se soumettre avec confiance à son Fils. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui nous rappelle de voir les choses comme tu les vois. Et Seigneur, tu connais notre cœur, tu connais notre contexte et nos réactions et nos peurs et tout ce qu'il y a par rapport aux réactions contre toi, l'opposition contre toi. Seigneur, on veut te remercier pour ce psaume qui nous rappelle que tu règnes, que ton Fils règne, qu'il aura le dernier mot. Et merci pour ce psaume qui nous encourage à être des témoins de ce règne de joie et de paix. Aide-nous, Seigneur, à annoncer ta parole par ce que nous vivons, par ce que nous disons, pour que beaucoup encore rencontrent en Jésus leur Sauveur bien-aimé. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.